Aujourd'hui, dans À vos trousses, on vous propose des décryptages de l'actualité internationale avec les élèves des terminales du lycée Jean Vigo. Ils et elles réalisent toutes les semaines dans leur cours de géopolitique des podcasts. Aujourd'hui, on vous propose la série Jean Vigo décrypte de la Suède à l'Algérie en passant par la Pologne. C'est parti dans À vos trousses.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Jean Vigo décrypte. Cette semaine, nous vous proposons une édition spéciale pour une nouvelle spéciale. Comme vous l'avez très certainement déjà appris dans les médias, la reine Elisabeth II s'est éteinte le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Nous ne pouvions pas passer à côté de cet événement et c'est pour cela que j'ai invité une spécialiste de la question du Royaume-Uni et de son fonctionnement. Bonjour à vous et merci d'être présente à nos côtés pour cet épisode.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Ma question pour débuter cette édition serait : quel portrait pouvons-nous établir de la reine Elisabeth II en tant qu'acteur sur la scène politique internationale ?
Tout d'abord, avec une durée de règne de 70 ans, elle a pu assister à de nombreux événements historiques tels que les crises économiques et financières comme celle de 2009 ou bien la crise sanitaire liée au coronavirus. Elle a rencontré de nombreuses personnalités publiques et politiques, comme les présidents des pays les plus puissants au monde, et notamment plus d'une dizaine de présidents américains comme Barack Obama ou Donald Trump, mais aussi les présidents français. Elle était plus une représentante du peuple anglais qu'une figure politique en soi. Elle n'avait pas vraiment de pouvoir, elle nommait son premier ministre, elle était chef de l'église anglicane et chef des armées, mais elle n'avait pas vraiment de poids dans le gouvernement de son état, puisque c'est le premier ministre qui a le rôle principal dans la politique du pays. Elle refusait aussi souvent d'utiliser certains de ses droits.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur son rôle, puisqu'elle n'avait pas de poids politique ?
Elle était le symbole d'une monarchie, d'une famille royale, mais pas le symbole d'une diplomate. Elle représentait l'histoire de son pays, avec un attachement à la monarchie, même si leur pouvoir était moindre. Elisabeth II était très appréciée par le peuple britannique et dans le monde également, car elle n'était pas problématique. Elle n'affichait même pas son opinion sur les partis politiques de son pays, ce qui aurait pu engendrer des polémiques qui peut-être auraient nui à sa réputation ou à la prise de certaines décisions décisives pour le pays.
En quoi la mort d'Elisabeth II a touché le monde entier ? Étant donné que son rôle n'était pas impactant sur le monde diplomatique, pourquoi un tel engouement ?
Dans le monde, elle était extrêmement connue, elle était une personnalité publique en fait. On traquait ses moindres faits et gestes à elle et à la famille royale. Même si elle n'avait pas de poids conséquent dans le hard power, elle était en fait un pilier du soft power britannique. Quand une personne de n'importe quel pays du monde pensait au Royaume-Uni, elle allait forcément penser de près ou de loin à la famille royale et donc à la reine. Encore dans le soft power, mais le simple fait de parler anglais, sachant que c'est la langue la plus parlée au monde, mais aussi celle de la diplomatie, peut nous rallier à la reine, symbole ultime du monde anglais. Et il ne faut pas oublier qu'elle représentait tout de même la Grande-Bretagne, qui est l'une des plus grandes et anciennes puissances mondiales dans tous les domaines. L'île aura su s'ouvrir au monde et avoir sa place au sein même des plus grandes organisations, comme l'ONU par exemple, où elle fait partie des 5 États membres possédant le droit de veto. Et à partir de 1952, elle aura réussi à faire développer le Commonwealth, une organisation intergouvernementale dont elle a été chef.
Qui dit fin de règne dit nouveau roi. Alors, qui sera son successeur ?
Son fils, Charles III, va prendre la place de roi accompagné de sa femme Camilla Chand, qui devient reine consort du Royaume-Uni. D'ailleurs, nous pourrons avoir à reparler de l'histoire de la princesse Diana, l'ex-femme de Charles III, dans les prochains jours dans les médias. Cette histoire est considérée comme la seule polémique concernant la reine Elisabeth II.
Pensez-vous qu'une nouvelle ère commence avec ce nouveau roi ?
C'est assez probable, car nous avons assisté à la fin d'un règne de 70 ans, ce qui est assez conséquent. Donc forcément que les choses vont changer et ne vont pas être pareilles à partir de maintenant. Nous pouvons imaginer des réformes concernant le rôle de la famille royale ou sur le fonctionnement du gouvernement.
Je vous remercie pour cette intervention. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle actualité à décrypter. Jusque-là, si vous voulez approfondir sur ce sujet-là, je vous propose une série disponible sur Netflix intitulée The Crown, sortie en 2016, réalisée par Stephen Daldry, ou bien le documentaire Le rôle d'une vie sur la chaîne Histoire TV. Au revoir et prenez soin de vous.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans notre émission quotidienne Jean Vigo décrypte, nous analysons les faits d'actualité dans le monde.
Aujourd'hui, on part en Suède où l'extrême droite est aux portes du pouvoir après les élections législatives du 11 septembre dernier. Ces élections visent à renouveler, pour 4 ans, les 349 membres du Parlement.
En effet, la droite traditionnelle, composée de la droite libérale et conservatrice, mais aussi de l'extrême droite, l'emporte avec 176 sièges contre 173 pour le centre-gauche et les Verts. L'ancienne première ministre Magdalena Andersson, chef du Parti socialiste démocrate, au pouvoir depuis 8 ans en Suède, a démissionné de ses fonctions le 14 septembre dernier.
Le Parti démocrate suède, principal parti d'extrême droite, créé en 1888 par des néo-nazis, devient la deuxième force politique du pays avec 20,5% des voix. Il connaissait déjà une expansion depuis les années 2000, avec notamment un score de 4% en 2010 et lors des dernières élections de 2018, il avait obtenu 17,5% des voix. Ce parti gagne de plus en plus d'ampleur, notamment chez les jeunes. Il représente 22% des voix des 18-21 ans.
Jusqu'alors, la droite traditionnelle formait une barrière républicaine contre l'extrême droite. Mais aujourd'hui, elle doit s'allier à l'extrême droite si elle veut le pouvoir et sortir de l'opposition. Cette alliance reste difficile puisque les partis ont des points de désaccord.
Alors nous, en France, on peut se demander ce qui est arrivé car la Suède tient un rôle d'idéal politique. Elle est le symbole de modération dans l'imaginaire collectif.
Eh bien, la Suède fait face, comme les autres pays européens, à la crise énergétique et l'inflation, plus 9% en 2022, et à la montée de la criminalité. Les démocrates de Suède ont su profiter de la situation en rendant les problèmes d'immigration responsables de cette insécurité. Le leader du parti, Jimmy Åkesson, a d'ailleurs exprimé son souhait de, je cite, « renvoyer les immigrés chez eux ».
Et cela représente plus de 2 millions de personnes, soit un cinquième de la population. La Suède était historiquement une terre d'accueil. Depuis les années 90 jusqu'en 2016, la politique migratoire du pays était qualifiée de souple et universelle. C'est notamment le pays d'Europe qui a accueilli le plus de migrants par habitant durant la crise des migrants en 2015. Et aujourd'hui, le pays se retrouve dépassé par sa politique migratoire généreuse.
Pour mener l'alliance, les sociaux-démocrates exigent un accord écrit sur le programme de la future coalition. Le prochain Premier ministre, issu de cette coalition, sera décidé dans les prochains jours.
C'est un tournant politique majeur pour le pays, après 8 ans de gouvernement de gauche. Parmi les mesures que le parti propose se trouve le maintien des allocations chômage, que la droite traditionnelle souhaitait baisser, des mesures en faveur du pouvoir d'achat, le durcissement de la politique migratoire et un virage conservateur de la politique culturelle.
Mais cela impacte aussi la géopolitique européenne, puisque les sociaux-démocrates sont un parti eurosceptique. Et la présidence tournante de l'Union européenne passe le 1er janvier prochain à la Suède.
Cette tendance, on peut l'observer partout en Europe, où l'extrême droite est de plus en plus dédiabolisée et ne cesse de grimper dans les sondages. Et on le voit ici, même dans les démocraties dites parfaites.
L'Italie devrait connaître le même sort lors de ses élections législatives le 25 septembre 2022, où l'extrême droite est donnée à 25% des votes selon les estimations.
Ainsi s'achève ce podcast qui s'appuie notamment sur l'article du Monde « Suède, l'extrême droite s'impose dans le paysage politique » écrit par Anne-Françoise Hiver le 16 septembre 2022 et sur le podcast de France Culture « La question du jour, législative en Suède, comment l'extrême droite a-t-elle gagné du terrain ?» du 13 septembre. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle actualité.
Jean Vigo décrypte, la radio de l'info, présentée par moi-même, Romain Ponce. Je suis aujourd'hui en compagnie de Thibaut Paré, spécialiste de la politique du Moyen-Orient. Bonjour Thibaut.
Bonjour Romain.
Alors Thibaut, nous allons bien sûr parler de l'Iran, sujet principal de vos études actuelles. Pourriez-vous rappeler aux internautes comment la situation a-t-elle dégénéré ?
Il faut rappeler que l'Iran est dirigé par le président Ibrahim Raisi depuis le 5 août 2021. Ce dernier a mis en place donc une politique stricte et répressive dans le cadre du maintien de l'ordre. Il est ultra conservateur et d'ailleurs des enquêtes tournent autour de lui. Effectivement, il est suspecté de crimes contre l'humanité De plus, il existe de fortes tensions entre le président et les États-Unis.
Et l'État doit être particulièrement religieux?
Alors, effectivement, l'islam est particulièrement présent en Iran. D'ailleurs, l'autre nom du pays, c'est donc la République islamique d'Iran.
Que s'est-il passé le 14 septembre 2022?
Eh bien, le 14 septembre 2022, une femme étant non voilée est arrêtée, torturée et assassinée pour une seule raison, elle ne porte pas le voile, ce qui est interdit en Iran, et donc cette femme s'appelait Mahsa Amini.
Et quelle a été la réaction du peuple?
Eh bien, le peuple et surtout les femmes ont entamé un mouvement de révolte. Effectivement, donc des manifestations ont éclaté dans tout le pays et plus de 2500 manifestants ont été recensés.
Mais donc, quelle a été la réaction du gouvernement, étant donné que vous l'aviez décrit comme répressif?
Bien, sans surprise, le gouvernement d'Ebrahim Raïssi s'est lancé dans un projet de répression. Sur les 2500 manifestants, 920 personnes ont été blessées et 130 personnes ont été tuées. Et on n'arrive pas encore à comptabiliser le nombre de prisonniers, mais de nombreuses personnes ont été arrêtées, on les compterait en centaines.
Et quelles ont été les réactions internationales? Les pays étrangers n'ont-ils pas agi?
Eh bien, de nombreux pays étrangers ont dénoncé les actes commis en Iran, mais pour l'instant, aucune intervention n'a été envisagée. De plus, cette actualité est éclipsée par les menaces et actes de Poutine. Donc, pour l'instant, la seule réaction internationale détectée est artistique, puisque de nombreuses personnes ont rejoint un mouvement. Et donc, dans ces personnes, on retrouve les artistes et célébrités qui ont pris la parole. Enfin, une enquête a été lancée et des organisations internationales préparent des interventions humanitaires.
Selon vous, comment la situation peut-elle évoluer?
Eh bien, en réalité, il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier, ce serait que les manifestations s'intensifient et que le peuple renverse le gouvernement en place, même si cette possibilité est peu probable. On a aussi donc un scénario dans lequel les répressions s'accentuent et donc ce mouvement de manifestation est réprimé violemment mais continue à être réprimé. Et enfin, le dernier scénario, ce serait une intervention de l'ONU par exemple pour mettre fin donc à ce mouvement de répression très importante du gouvernement iranien.
Merci Thibault. C'était donc Jean-Vigo Décrypte. Si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous conseillons l'émission Esprit public et l'article du Monde à ce sujet. Manifestation en Iran, les premières réactions.
Ayatollah Khamenei après 3 semaines de silence.
Bonne journée et à bientôt sur la radio de l'info.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Maël Souillé. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre émission hebdomadaire Gervigo décrypte. Nous allons parler dans cette émission de la visite de la première ministre française Elisabeth Borne en Algérie. Pour répondre à toutes nos questions, nous serons bien évidemment accompagnés aujourd'hui de notre invité spécial Pablo Gote. Bonjour Pablo.
Bonjour Maël.
Donc, comme vous le savez, il y a diverses tensions entre la France et l'Algérie. Donc, première question, quelle est la situation entre la France et l'Algérie? Où en est-on aujourd'hui?
Aujourd'hui, les tensions présentes entre les deux pays sont déjà pour les Algériens le souvenir de la colonisation qui a eu lieu dans le passé, mais ils se reprochent aussi à la France la division par deux du nombre de visas attribués aux Algériens. La France, elle, reproche à l'Algérie de ne pas jouer le jeu contre la lutte de l'immigration clandestine.
Pourquoi la première ministre française est-elle allée en Algérie alors que le président de la République, Emmanuel Macron, y est allé 6 semaines auparavant pour une réconciliation entre la France et l'Algérie?
Elisabeth Borne est allée en Algérie pour bien sûr montrer l'envie de réconciliation entre les deux pays. Elle a d'ailleurs montré cette envie dès son arrivée en rendant hommage aux Algériens morts au combat durant la guerre d'Algérie. Mais ce déplacement a été fait surtout pour bâtir de nouveaux liens économiques avec le pays.
Quand vous abordez le fait que Elisabeth Borne veut tisser des liens économiques, quels sont ces liens dont vous parlez?
Alors avec ce qu'il se passe en Ukraine et en Russie, La guerre engendre des tensions économiques et la France cherche des nouveaux partenaires pour se réapprovisionner en gaz. Et sachant que l'Algérie est un grand producteur de gaz mondial, cette visite ne semble pas anodine.
Mais pourtant, la Première ministre a évoqué le fait que la question du gaz n'était pas au menu des discussions. Comment se fait-il qu'elle soit donc allée en Algérie pour trouver un accord avec ce pays par rapport au gaz?
Alors elle peut nous dire cela, car ça n'a pas été le seul sujet à être évoqué. On a aussi le sujet d'un lancement d'une nouvelle dynamique entre les deux pays qui a été évoqué. Pour cela, l'Algérie va au futur accueillir 70 entreprises françaises sur son sol, et cela va créer 40 000 emplois qui seront destinés au peuple algérien.
Donc par rapport à tout ce que vous nous avez dit, quel était en fait le but général de la visite de la Première ministre en Algérie?
Donc le but de cette visite était donc de réconcilier les pays qui étaient auparavant en froid pour pouvoir mieux collaborer au futur sur le plan énergétique comme économique.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Pablo Gott. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve donc lundi prochain pour de nouvelles actus dans le monde.
Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Jean Vigo décrypte. On va parler de la Coupe du Monde au Qatar. Je suis Gutelma Elric et avec moi, pour aborder ce sujet, l'expert en sport et géopolitique, Samuel Rodriguez.
Bonsoir Monsieur Maelric et bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là pour aborder ce sujet brûlant.
Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Car nous savons qu'à l'aube de cette Coupe du Monde, vous êtes très occupé.
Bien entendu.
Nous sommes le 14 novembre, à 6 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, regardée par plus de 1 milliard de personnes. Cet événement est dans toutes les têtes des amateurs de foot. La Coupe du Monde est un événement sportif de très grosse ampleur, qui rassemble les meilleures nations du foot de la planète dans un seul et même pays, pour s'affronter et déterminer quelle sera la meilleure.
Nous savons depuis le 2 décembre 2010 que le Qatar sera le pays hôte de cette Coupe du Monde, mais de nombreux débats sont arrivés depuis que l'échéance approche. Le premier sujet de débat est la construction de stades de foot gigantesques, esprit pour la compétition, avec énormément d'ouvriers qui décèdent durant la construction de ces stades. Un second sujet, on pourrait parler des droits de l'homme qui sont bafoués au Qatar. Et pour finir, les désastres écologiques que cet événement va apporter au monde.
Nous avons compris qu'il y a trois enjeux principaux pour cette Coupe du Monde. Nous allons vous les expliquer le plus clairement possible pour que vous n'en loupiez pas une miette. Pouvez-vous, pour commencer, nous en dire plus sur les problèmes de construction que ces stades ont rencontrés?
Bien sûr, je suis là pour ça. Donc, en effet, les constructions multiples sont compliquées. Depuis le début des travaux en 2017, il y a des ouvriers immigrés de pays voisins comme l'Inde et le Bangladesh qui viennent contribuer à la création de ces stades. Sauf que c'est un enfer. Il y a des conditions de vie, de travail très déplorables, avec une chaleur étouffante et des journées très longues. Cela a pour conséquence qu'au minimum 6500 personnes sont mortes d'épuisement, de chaleur, de malnutrition sur les chantiers, et c'est selon une enquête du quotidien britannique The Guardian publiée en 2021. Le fait que des immigrés d'autres pays meurent sur les chantiers sont mal vus par les pays membres des Nations Unies qui peuvent amener à des tensions géopolitiques entre les pays.
Cela nous permet de comprendre l'importance de ces enjeux très graves pour l'humanité. Et donc, cela nous amène aux droits de l'homme dont vous nous aviez parlé. Pouvez-vous approfondir?
Effectivement, c'est lié. Puisque le fait que des ouvriers meurent dans des conditions atroces est une violation des droits de l'homme. Ensuite, il y a le fait que la communauté LGBT soit réprimée par le Qatar et une relation sexuelle avec quelqu'un de même sexe entraînerait 7 ans de prison pour les deux personnes. Et le fait que récemment, les Qataris ont payé des Qatariens pour faire semblant de supporter une équipe de foot. Ce qui est un affront pour le monde du foot. Et les grandes puissances dénoncent ces pratiques malsaines.
Bien entendu, cela est accablant d'entendre tout cela et que rien n'est mis en place pour parvenir à des changements. Et pour finir, une dernière question. Parlez-nous des conséquences que ces stades ont sur notre environnement.
Ces stades sont une catastrophe climatique. puisque 7 des 8 stades sont climatisés à ciel ouvert. Cela signifie que l'air créé par ces stades s'échappera aussitôt. Ensuite, il y a un environnement, il y a énormément de déchets qui ont été dus à la construction des stades, et plus de 3,6 millions de tonnes de CO2 vont être générées pendant cet événement, d'après la FIFA. Pour finir, la construction de ces stades sont seulement pour la Coupe du Monde, et l'impact écologique de leur construction ne sera donc pas amorti dans le temps.
Merci à vous pour toutes ces informations.
Mais de rien.
Nous avons pu voir que cette Coupe du Monde 2022 est sujet à de nombreuses controverses. Et par ce fait, de nombreux pays réagissent et appellent au boycott. Cela amène à des tensions géopolitiques entre les pays. Et même certains supporters de foot appellent au boycott, comme vous pouvez le voir sur l'image. De plus, la FIFA étant au courant que les Qataris bafouaient les droits de l'homme, a quand même organisé cette Coupe du Monde au Qatar. Sans transition, merci à tous de nous avoir écoutés. Nous avons utilisé comme source pour cette émission Wikipédia, désignation du pays organisateur de la Coupe du Monde de football. France Bleu, la Coupe du Monde au Qatar fait-elle polémique sur le plan écologique? Et pour finir, hrw.org, la Coupe du Monde de la honte. La FIFA néglige les droits LGBT au Qatar. Merci à vous, Samuel Rodriguez, et à la prochaine.
Merci à vous et bonne Coupe du Monde.
Je suis Fanny Arnal et le sujet d'actualité du jour concerne le bateau de 234 migrants Ocean Viking en mer Méditerranée depuis maintenant 3 semaines, dont l'accueil crée des tensions entre l'Italie et la France. Nous accueillerons donc aujourd'hui le vice-président du Conseil des ministres italien et ancien ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, et Nathanaël Castan, député des Républicains à l'Assemblée nationale. Donc, le navire humanitaire Ocean Viking doit débarquer vendredi 11 novembre au port militaire de Toulon, au sud de la France. 234 migrants secourus en Méditerranée. Une décision de la France qui survient dans un contexte de vives tensions migratoires avec l'Italie et déclenche une nouvelle polémique sur le sujet brûlant de l'immigration. Bonjour Monsieur Salvini, que pensez-vous de cette décision française qui va à l'encontre de la Convention internationale qui oblige l'Italie à accueillir ces migrants ?
Tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité sur le plateau de cette émission. Vous savez, je pense que cette convention internationale à laquelle vous faites référence est injuste. Si vous observez une carte de l'Union européenne, vous vous rendez bien compte que les ports les plus proches de la plupart des pays du Maghreb dont partent les migrants sont des ports italiens. Dans ce contexte, si nous appliquons la convention, nous nous retrouvons débordés par un afflux massif de migrants sur notre territoire national. C'est pour cela que nous n'avons pas accueilli l'Ocean Viking. Et vous savez, en ce sens, l'Italie n'a fait que respecter les normes imposées par Bruxelles, normes qui stipulent que les demandeurs d'asile sont redistribués dans les pays volontaires de l'Union européenne, dont la France. Nous avons donc juste délocalisé l'accueil premier de ces migrants en France.
Oui, le gouvernement français ne l'a pas choisi. C'est l'Italie qui a pris cette décision et qui a forcé la main à la France. En effet, mardi 8 novembre, Giorgia Meloni a remercié la France de prendre en charge le bateau et l'accueil des migrants. Un coup de bluff, car en France, au même moment, l'ensemble des ministres du gouvernement disaient que c'était à l'Italie de les accueillir. Le gouvernement italien a donc désobéi à la Convention internationale, ce qui a obligé la France à secourir ces migrants qui sont en mer depuis plus de 3 semaines. Ce qui n'a pas plu aux représentants français, qui ont déclaré que l'Italie avait eu un comportement inacceptable dans ce conflit. Qu'en pensez-vous ?
Oh, moi, ce que je pense que le problème vient de l'administration française, puisque, comme l'a souligné l'agence italienne ANSA, les propos tenus par Giorgia Meloni lors de sa conférence de mercredi dernier ne sont qu'une reprise d'informations obtenues d'une source au ministère français de l'Intérieur, d'après laquelle la France était prête à ouvrir le port de Marseille à l'Ocean Viking. C'est pour cela que nous, et je parle là de l'ensemble des membres du gouvernement italien, nous dénonçons les propos indignes de la France, propos irrespectueux qui ne vont pas dans le bon sens.
Je vous remercie, Monsieur Salvini. Je vais à présent laisser la parole à Nathanaël Castan, un député du groupe des Républicains. La réception de ces migrants a créé de nombreux débats en France entre les différents groupes politiques, tels que la gauche et les écologistes qui ont salué une décision digne des valeurs de la France, alors que les groupes de droite n'ont pas cet avis. Nous écoutons le vôtre, Monsieur Castan.
Mais bien évidemment que nous n'avons pas cet avis. Qu'est-ce que cette décision montre de la France? Elle montre un fort laxisme français. Je pense que quand un gouvernement veut faire passer une loi sur l'immigration visant à expulser plus facilement les migrants qui ne peuvent pas bénéficier du droit d'asile, il n'est pas judicieux d'accueillir ces mêmes migrants dans le complexe hôtelier Bellambra de Toulon. Vous avez des sans-abri français qui vivent dans la rue tous les jours de l'année et des migrants qui bénéficient d'hôtels de luxe et de piscines intégrées.
Cette information dont vous venez de nous parler, relayée par BFM TV et reprise par la revue du site d'extrême droite FD Souche, et que vous propagez par l'intermédiaire de députés français comme Éric Ciotti, a été démentie par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. En réalité, ces migrants seront logés dans le centre du Levant de Dijon, qui n'est donc pas un centre hôtelier à plusieurs étoiles. Vous donnez donc aux Français de fausses informations pour inciter la haine contre ces migrants.
Vous savez quoi, je ne vais même pas répondre à vos accusations. Je ne reviendrai que sur un seul point. Le cas de l'Océan Viking est un exemple qui nous permet de mettre des images sur deux problèmes géopolitiques principaux. Le premier, c'est qu'accueillir toujours plus de migrants sur le sol français devient véritablement problématique, surtout dans le contexte actuel de récession où de nombreux Français risquent de se retrouver dans des situations plus que précaires. Comment l'État peut-il continuer à accueillir toute la misère du monde alors même que notre pays va au plus mal? Le second point, c'est que les directives mondiales et européennes ne répondent plus à la réalité de la situation. Alors que plus de 1800 migrants sont morts en Méditerranée cette année. Obliger des pays comme l'Italie à prendre en charge tous les migrants d'Afrique, ce n'est pas possible, et ce, quand bien même ils le voudraient.
Merci Monsieur Castin pour votre présence sur ce plateau. Nous allons conclure ce podcast quotidien. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, nous vous invitons à écouter le podcast « Pourquoi du comment faut-il accueillir ces migrants ?» disponible sur France Culture. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices de nous avoir écoutés, et on se retrouve demain pour un nouveau podcast.
Je vais à présent vous citer les sources que nous avons utilisées pour préparer ce podcast. Ces sources sont donc l'article de Libération « On démêle le vrai du faux sur l'accueil et le logement des 234 migrants de l'Océan Viking débarqués à Toulon ». L'article de France Info « Ici c'est la France, hébergeait hier les passagers de l'Océan Viking soufflant faim ». L'article du journal Arab News « Le navire Océan Viking débarque 230 migrants en France, une première ». Une vidéo YouTube de France 24. Migrants, de point, Mélanie dénonce une réaction française agressive et injustifiée. Et enfin, un podcast France Info du 10 novembre, Les Informés du Matin, l'Océan Viking, Macron a-t-il eu le choix?
Bienvenue à tous sur Jean Vigo Décrypte. Ici votre présentatrice, Tissy Aguilar. Aujourd'hui, nous allons parler de ce missile tombé sur la Pologne le 15 novembre 2022. Des questions se posent. Serait-ce une déclaration de guerre de la Russie, de l'Ukraine? Y aura-t-il une troisième guerre mondiale? L'OTAN devrait-il réagir? Pour y répondre, nous accueillons ce matin Méline Pedrosa, secrétaire générale déléguée de l'OTAN. Bonjour Méline Pedrosa, bienvenue. Je me dois de le rappeler pour nos auditeurs, mais en quelques mots, l'OTAN c'est une alliance de pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Donc, cette organisation établit un lien entre ces deux continents et permet aux pays de se consulter et de coopérer dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Retenez plus simplement que voilà, c'est une organisation militaire occidentale basée sur la défense collective. Alors Méline, d'où vient ce missile?
Alors, on va écarter tout débat et mettre fin à toutes les questions. Les autorités polonaises et américaines, mais aussi celles de l'OTAN, ont très vite pris en main le cours de l'enquête et dès le lendemain, nos dirigeants occidentaux ont écarté la possibilité que ce missile puisse être russe. Donc en effet, ce missile serait un missile ukrainien réservé à la défense contre les missiles de croisière russes. Ce n'est donc pas une attaque délibérée de la Russie.
Pouvez-vous nous éclairer sur la rapidité de ces enquêtes? Comment a-t-on pu faire ces conclusions aussi rapidement? Et qu'est-ce que la trajectographie?
La réponse est l'enquête et la recherche. Des spécialistes se déplacent sur le lieu où le missile a atterri. On identifie le type de missile et éventuellement le lanceur. Dans le cas du missile qui est tombé en Pologne, peu de doutes subsistent sur le fait qu'il s'agit d'un système de défense Sol-Air-S-300. Ces derniers, de fabrication soviétique, sont utilisés par les Russes, mais aussi par les Ukrainiens. En plus de cela, dans le cadre de l'OTAN, des avions spéciaux patrouillent dans le ciel pour y rendre compte de l'activité aérienne, quelle qu'elle soit. C'est le rôle d'une flotte de Boeing E-3A qui patrouille en Europe. En bref, ce sont des avions radars. Et c'est donc ce qui s'est passé. La trajectoire du missile a donc été suivie, et c'est cela qu'on appelle la trajectographie, ce que vous avez dit tout à l'heure.
Merci pour cette précision. J'en reviens à ce que l'on entend dans les médias. Pourquoi entendons-nous parler d'une escalade qui fut évitée ?
Eh bien, parce que dès que ce missile fut découvert, les conseils se sont réunis en urgence, les chefs gouvernementaux ont été alertés, et le président ukrainien s'est lui empressé de dire que le missile était russe, ce qui a tout de suite amplifié encore plus la tension entre les deux pays. C'était clairement une alerte rouge, une attaque présumée non pas que sur la Pologne, mais sur l'OTAN, ce qui aura entraîné des représailles et des tensions sans fin. Je tiens vraiment à préciser que chaque déploiement de missiles, chaque déplacement militaire déployé est surveillé et tout peut très vite dégénérer. L'objectif aujourd'hui est de faire redescendre la pression, plus qu'elle ne l'est déjà, depuis le début du conflit entre les deux pays. Et il ne faut pas oublier et être réaliste sur la situation actuelle. La guerre Russie-Ukraine va perdurer et il faut être résilient et extrêmement vigilant sur chaque missile envoyé chaque jour par la Russie en direction de l'Ukraine. Car même si ce missile n'était pas de l'ordre russe cette fois-ci, son origine provient tout de même de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Comme vous l'avez dit, on ne sait pas de quoi demain est fait. En tout cas, merci beaucoup pour ces réponses et cette précision, Méline Pedrosa.
Avec plaisir, au revoir.
Nos sources pour ce podcast géopolitique sont France Info, France 24 et 20 minutes. Si vous vous préoccupez de la géopolitique, je vous conseille les vidéos YouTube des dessous de cartes, mais aussi nos autres podcasts sur Jean-Vigo décrypte, court, rapide, mais intéressant. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de votre écoute et à bientôt.
C'était la série de podcasts Jean Vigo décrypte, produite par les élèves des terminales en géopolitique du lycée Jean Vigo. Vous pouvez les réécouter vendredi à midi dans la rediffusion d'Avotrousse et sur notre site radiolarzac.org.